les chemins de traverse. Rando, trail, sentier, à vélo ou à pied, laissez-vous guider par Francis sur les chemins de la Vienne. Les chemins de traverse sur REC 103.7, animé par Francis.
Bonjour à toutes, bonjour à tous, bonjour et bienvenue sur REC 103.7 et les chemins de traverse pour cette émission aujourd'hui en compagnie de deux charmantes jeunes femmes, c'est Soline Bonhomé et Coralie Pellegris qui sont à mes côtés de l'association Kili Usher, c'est bien ça?
Bonjour Francis, merci, oui tout à fait.
Vous allez bien?
Bonjour. Oui, très bien, merci et vous?
Eh bien écoutez, oui très bien, très bien. Alors le temps n'est pas terrible, on peut le dire aujourd'hui, il fait un peu de pluie, un peu de mauvais temps.
Tout à fait, oui, on n'a pas ramené le soleil.
Eh oui. Le soleil, on le verra tout à l'heure. Vous l'avez peut-être eu lorsque vous êtes monté en haut du Kilimandjaro. On en parlera tout à l'heure.
Oui.
On va parler un peu de vous déjà. On va commencer par vous, Soline.
Oui.
Vous êtes mariée?
Oui.
Des enfants?
Oui, tout à fait. J'en ai trois.
Et quel âge, si c'est pas indiscret?
Donc les enfants, 11 ans, 8 ans et 3 ans.
Et 3 ans, c'est ce petit bout de chou qu'on a vu tout à l'heure.
Le petit bout de chou que vous avez vu tout à l'heure.
Qui est parti sur le marché, là, faire un tour
exact.
Avec papa, là. Voilà. Et vous, Coralie, des enfants mariés?
Non, moi je suis seule.
Vous n'êtes pas de Poitiers, vous êtes...
Je suis de Toulon.
Vous auriez pu ramener le soleil.
Je l'ai un peu oublié là-bas.
Exactement. Vous connaissez depuis combien de temps, toutes les deux?
2 ans. J'irais un petit peu sur les réseaux, peut-être depuis 3 ans, à distance. Et en fait, on s'est vus pour la première fois au Kilimandjaro.
Non, à Paris dans l'avion.
À Paris dans l'avion pour aller au Kilimandjaro.
Voilà.
Alors, on en parlera dans l'émission. Vous êtes toutes les deux, enfin pas toutes les deux, une est atteinte du syndrome de Usher.
Oui.
Soline.
Oui.
Donc, vous avez un problème de cécité et puis de surdité.
Tout à fait.
Et Coralie, vous, par contre, vous êtes aveugle. Enfin, aveugle, pas tout à fait, mais en tout cas malvoyante, non?
Malvoyante, j'ai la rétinopathie pigmentaire.
Avec une évolution, toutes les deux, dans le temps, qui malheureusement, pour l'instant, n'a pas de remède de solution.
Non, pour le moment, alors, les chercheurs sont là, justement, pour... ils travaillent beaucoup sur la recherche médicale et il y a beaucoup d'espoir quand même, mais ça manque de fonds, d'où le pourquoi nous avons créé l'association, d'ailleurs.
Exactement. On avait la semaine dernière, d'ailleurs, je le rappelle, nos amis du Téléthon.
Oui.
Est-ce qu'il y a des aides du Téléthon par rapport à la maladie, par rapport à ce syndrome? Peut-être pas. Alors, il y a forcément des recherches.
Oui, très certainement. Maintenant, je vous avoue que je les ai contactés. Mais non, je n'ai pas de retour par rapport à ça. Je ne sais pas.
D'accord.
Honnêtement.
Bah, c'est vrai qu'on avait, Marine Moulin, qui est la déléguée départementale ici la semaine dernière, donc, et qui va être sur Chauvigny, donc le 6 décembre, puisque le Téléthon se passe à Chauvigny, et sur toute la Vienne, mais à Chauvigny, donc le 6 décembre, en compagnie de Frédéric Gersal, qui est le parrain cette année, comme d'autres ont pu l'être, Luc Turland et d'autres. Vous avez monté, vous, une association il y a quelques mois, qui n'est pas très ancienne.
En 2024, en juin 2024.
On est déjà un peu plus d'un an.
Oui.
Combien de membres actuellement?
On va dire qu'on est une quinzaine, on n'est pas beaucoup pour le moment, parce que c'est très très compliqué de se faire connaître pour commencer, mais par contre on sait que c'est une quinzaine qui est très fidèle et qui nous suivent vraiment assidûment. Et après nous avons beaucoup de personnes qui nous suivent sur les réseaux sociaux, qui nous soutiennent à distance, financièrement aussi, qui partagent beaucoup. Donc là je sais qu'on est très suivis par rapport à ça.
On le voit sur les réseaux sociaux. Pour être, en étant un peu indiscret, pour vous connaître tout simplement, Soline, vous avez découvert votre maladie à quel âge?
Au moins à une partie 25 ans.
25 ans.
Alors en fait, je suis sourde de naissance, mais pour le moment, on pensait que j'étais uniquement sourde. Ouais. Et c'est à 25 ans qu'on a découvert la rétinopathie pigmentaire. Et c'est seulement depuis 6 ans, je dirais, où nous savons que c'est l'association des deux faisait que c'est le syndrome de Usher.
Le fait que vous soyez sourde, vos parents l'ont découvert comment? Alors je vous le dis sans penser à mal, tout simplement parce que j'ai un fils moi aussi qui est sourd d'une oreille.
Oui.
Donc c'est pour ça, moi je l'ai découvert un peu par hasard.
Oui.
On jouait à un jeu par hasard, je me cachais. Et il n'arrivait pas à me trouver, tout simplement.
Oui.
Vous, vos parents l'ont découvert comment?
C'est bien simple. En plus, ils étaient étudiants en médecine.
Ah oui,
donc ils étaient vraiment là-dedans. Et il s'avère que vers 2 ans et demi, je ne parlais toujours pas. J'étais un bébé très silencieux, qui ne pleurait jamais. Donc c'est très bien pour les
oui,
enfants, d'autant
oui.
plus que j'ai une grande sœur qui était apparemment...
Turbulente.
Oui, voilà, qui chouinait beaucoup. et voilà, et moi, j'étais l'opposé. Donc au début, c'est bien, c'est sympa, mais on commence à se poser la question si Soline n'a pas un problème. Et donc... Mes parents se sont battus, ils ont vu beaucoup de spécialistes, personne ne trouvait, et il s'avère que je suis née en 86, donc c'était n'était pas aussi développé qu'aujourd'hui. Mmh. Et c'est seulement à Bordeaux, vers l'âge de 3 ans, qu'on a découvert que j'étais sourde. Donc j'ai été appareillée par la suite. Et puis après, il a fallu que je rattrape tout mon retard en termes de langage, où là, j'ai dû suivre beaucoup de cours d'orthophoniste. Et puis, j'ai été suivie par l'Institut des sourds de Poitiers, mmh. Justement, pour avoir du soutien scolaire en plus de l'école, pour que je puisse rattraper tout mon retard, tout simplement.
Exactement. Difficulté, certainement, je le dis pour les parents aujourd'hui, l'orthophoniste, on en trouve difficilement aujourd'hui, hein, lorsqu'on est dans ce cas. Pour vos parents, c'était peut-être plus simple parce qu'ils étaient tous les deux du milieu médical. Donc, toute votre enfance s'est passée dans une école normale, entre
tout
guillemets.
À fait. Hein,
vous avez suivi un cycle normal. Oui. C'est une volonté de vos parents, parce que c'est vrai qu'à l'époque, et peut-être maintenant peut-être moins, mais à l'époque, on envoyait plus facilement les enfants, entre guillemets, handicapés, dans des écoles spécialisées, des instituts.
Tout à fait. Alors, c'est une volonté de mes parents, justement, notamment ma mère, qui s'est beaucoup battue, justement, pour que je sois dans une école, on va dire, normale. Je n'aime pas trop ce mot normal, parce qu'on n'est pas... Voilà. Mais elle s'est battue pour que je sois dans une école. Alors, après, la difficulté des écoles, c'est que personne ne voulait de moi.
Ouais,
et c'est seulement à l'Union chrétienne, à Poitiers, donc une école privée, qui
avec
a accepté...
Avec une bonne réputation, je crois.
Avec une très bonne réputation, ouais. Qui a accepté de me recevoir de la primaire jusqu'au collège.
Au collège, ensuite le lycée, je suppose.
Non, le lycée, je suis allée dans un lycée public, basique, tout à fait.
Basique, voilà.
Voilà, c'est ça.
Pour des études de... Vous avez fait quoi comme études ?
Alors, j'ai fait un bac STT, comptabilité, gestion. Et puis après, je n'ai pas fait de voie classique. J'ai été, dans un premier temps, maquilleuse professionnelle sur Paris.
D'accord.
Mais il s'avère que je voyais de moins en moins. Et je ne savais toujours pas que je ne voyais pas. Enfin, que j'avais... En plus, je conduisais encore. Enfin, je n'avais pas encore... Je ne rencontrais pas encore de difficultés par rapport à ça. Et puis, il s'avère que, de fil en aiguille, j'ai dû arrêter de travailler là-dedans. Et puis, j'ai fini dans les assurances.
D'accord.
Après, par la suite.
Maquilleuse professionnelle pour des artistes, des télévisions, des radios ?
C'était principalement les photographes et la télévision, mais je n'ai pas exercé longtemps.
D'accord, oui, ils sont aperçus au bout d'un moment qu'il y avait un petit souci peut-être de maquillage. Et vous, Coralie, comment s'est passée votre découverte, entre guillemets, de la maladie ?
Alors, moi, j'ai été diagnostiquée à 16 ans, donc plus jeune. Et en fait, ils ont découvert en premier lieu que j'avais des cataractes dans les yeux, et à 16 ans, ils se sont dit qu'il y avait un problème. Et c'est là où, du coup, ils ont investigué et que j'ai été diagnostiquée de la rétinopathie pigmentaire.
À 16 ans, c'est le moment de la puberté, de l'adolescence, moment compliqué parce que les relations en prennent un coup.
Oui, et c'est le moment de la conduite accompagnée.
Oui, aussi, oui.
Et voilà, et du jour au lendemain, on m'a dit, non, là, c'est pas possible. Et c'était le plus dur, je crois.
Oui, c'est ça, on doit s'écrouler quelque part à ce moment-là, tomber, alors je ne veux pas parler de dépression, mais c'est vrai que ça doit être très, très, très difficile quand on est jeune et qu'on a l'avenir devant soi d'une telle expérience. Hein.
Oui.
Voilà, je suppose qu'après, il faut un temps d'adaptation et on voit que vous rebondissez bien. Alors, on aura un invité tout à l'heure au téléphone qui lui aussi a su rebondir. Je ne vous dirai pas de qui il s'agit, mais qui a donné de l'espoir, en tout cas, à des générations ensuite par rapport à son handicap lui aussi. Vous, au niveau Coralie et puis Coralie et Soline, au niveau de ce handicap, aujourd'hui, vous le vivez comment ? Comme une chance, je ne sais pas, mais un renouveau, une renaissance ?
On en parlait justement hier où on se disait que si on n'avait pas eu ça, on n'aurait pas vécu ce qu'on a vécu avec le Kilimandjaro, notre rencontre, rencontres qu'on a faites grâce à cette expérience, grâce à ça. Donc oui, il y a des moments, c'est compliqué, mais ça fait qui on est aussi aujourd'hui.
Les relations avec les gens, parce qu'on parle de la famille, alors la famille est habituée, hein, forcément, vous êtes dans la rue quelquefois, c'est pas un peu compliqué parce que vous n'êtes pas entièrement aveugle, vous êtes malvoyante, vous marchez avec une canne.
Oui.
C'est pas un peu compliqué, les gens lorsqu'ils arrivent en vous voyant avec une canne, en se disant mais elle voit quoi.
Alors, c'était beaucoup plus compliqué quand on n'avait pas la canne, justement, parce que, pour le coup, on était en handicap invisible.
Ouais.
Et donc, quand on bousculait les gens, quand on se prenait une poubelle ou un volet qui est mal fermé sur les trottoirs et qu'on se les prenait en pleine tête, forcément, c'est assez délicat au niveau du regard des gens.
Ouais.
Par exemple, même une connaissance que l'on peut croiser et qu'on peut ne pas voir. Et donc, la connaissance, après, va bouder parce qu'on n'a pas dit bonjour, mais on s'en est pas rendu compte, on ne l'a pas vu ni entendu, par exemple. Donc là, c'était plus compliqué. Maintenant, avec la canne, aujourd'hui, je trouve que c'est beaucoup plus simple. Alors, il y aura toujours des personnes qui ne vont pas faire gaffe, mais de toute façon, dans tous les cas, il y aura toujours des gens comme ça. Mais la plupart du temps, il n'empêche que les personnes sont tolérants, ils nous laissent passer, ils sont beaucoup plus dans la délicatesse, attention, laisse passer la dame, elle a une canne, voilà. Et puis, ce que j'adore, moi, c'est les enfants qui se questionnent, parce qu'ils sont sans filtre. Et puis, j'entends des fois les petits-enfants, mais qu'est-ce qu'elle a, la dame, avec sa petite canne et tout ça. Puis les parents, ils sont toujours très gênés, alors qu'il ne faut pas se gêner, justement. Il faut expliquer simplement les choses. Et même moi, je peux leur expliquer, pourquoi pas. Mais souvent, les parents sont très gênés. Non, rien.
Oui, ouais, c'est vrai que c'est pas évident, ce regard-là des gens. Je vous dis, parce que moi, j'avais un frère aussi, j'en ai parlé déjà dans l'émission, qui avait la myopathie de Duchenne. Ah oui. Et c'est vrai que les gens le regardaient passer à côté. Et un sourire, simplement, lui aurait fait plaisir à ce moment-là, quoi. Donc, voilà, quelquefois, il suffit de pas grand-chose. Au niveau du travail, des adaptations peut-être au niveau du poste ?
Tout à fait. Alors moi, j'ai des postes adaptés, oui, tout à fait. Des horaires aménagés aussi pour ne pas conduire de nuit, parce que j'ai commencé petit à petit l'arrêt de la conduite. C'est très difficile d'arrêter de conduire quand on a toujours conduit et qu'on a notre indépendance, d'autant plus que j'habitais en campagne à l'époque. Donc on a commencé par des horaires aménagés pour ne plus conduire de nuit, parce que la rétinopathie pigmentaire commence au fait qu'on soit aveugle dans un premier temps la nuit, et après c'est la journée où on perd petit à petit. Et donc des horaires aménagés, ensuite un poste de travail avec un clavier adapté, le pointeur de souris un peu plus gros quand on travaille sur ordinateur, etc. Là, malheureusement, depuis le début d'année, je suis en invalidité, je ne peux plus travailler parce que cette maladie nous donne énormément de migraines ophtalmiques quand on reste sur écran toute la journée. Et bien que l'on ait mis en place un mi-temps thérapeutique ou autre, ça n'a pas suffi au niveau des migraines. Et depuis que j'ai arrêté de travailler, j'ai un confort en termes de santé qui n'est pas négligeable. Il me reste très peu de vision. Hein. Il me reste plus que 5 degrés de champ visuel. Et j'avais envie réellement de préserver ce petit bout de champ de vision et arrêter de travailler à ce moment-là pour éviter de me flinguer la santé, tout simplement. Quoi.
C'est ça. Quand on vous a diagnostiqué, on vous a dit qu'il ne vous reste plus que 10 ans de
vue. C'était horrible. C'était horrible parce qu'à 25 ans, on est encore jeune. J'avais beaucoup d'ambitions professionnelles, personnellement aussi. Je voulais avoir des enfants. À l'époque, je n'en avais pas. Ça a été une réelle descente aux enfers. On m'a carrément dit, il vous reste plus que 10 ans de toute façon, donc profitez de la vie. C'est très 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 violent, quoi.
Oui, je pense, tout à
fait. Et Coralie a vécu un peu la même chose, et elle, c'était à 16 ans, en pleine adolescence, en pleine puberté, c'est violent.
Exactement. Coralie, justement, au niveau des études, on n'a pas parlé, hein. Vous avez fait quoi ensuite?
Alors, moi, j'ai fait un master en psychologie, je suis psychologue clinicienne.
D'accord.
Donc, je travaille encore. Il n'y a pas d'aménagement en soi du poste, hein, parce que mon métier, voilà. Mais c'est comme disait Soline, au niveau des déplacements, je termine tard le travail, donc j'ai dû mettre en place des dispositifs pour avoir de l'aide à ce niveau-là.
Oui, c'est
quand
ça.
Quand il fait nuit, on ne peut pas se déplacer seul, en fait.
Contrairement à Soline, qui est mariée, donc elle peut compter peut-être sur l'aide de son époux, vous êtes célibataire, ce qui veut dire quand vous quittez votre travail, c'est quoi? C'est le taxi?
C'est en fait le dispositif de la région pour les personnes en invalidité à une antenne, et on a le droit à c'est un minibus en fait, donc d'accord. Ça appartient vraiment au réseau de bus qui vient nous chercher et qui nous ramène jusqu'au domicile. Exactement. Après, j'ai quand même ma famille tout prêt pour m'aider aussi.
Tout prêt à Toulon, vous avez de la chance, vous avez le soleil, on ne peut pas tout avoir. Hein, donc, en tout cas, je suis très heureux de vous avoir toutes les deux ici, hein, pour parler de votre expérience. On parlera tout à l'heure d'un défi, hein, que vous êtes lancé et que vous avez réalisé. Hein, c'est celui de grimper en haut du Kilimandjaro. Il y en a un autre à venir ensuite, c'est le Népal. Et puis d'autres choses encore, hein, je le souhaite, pour cette association donc, que vous avez lancée il y a quelques temps. Ça a été facile de lancer l'association
Non, pas du tout. Non, ouais, je n'y connaissais rien. Je suis partie de rien.
Vous êtes comptable, déjà, ça aide.
Oui, non, j'ai des études de comptabilité, mais je suis très nulle en maths en plus. Hein.
Ah, oui, d'accord.
C'est ça le pire. Non, mais j'ai mon mari qui m'a beaucoup aidée. Hein. Au niveau paperasse, c'est le trésorier de l'association d'ailleurs. Donc il m'a énormément aidé là-dessus. Non, ça a été un parcours du combattant, et le plus dur finalement, c'est de se faire connaître.
C'est ça, tout à fait, de se faire connaître par les institutions, ouais. par les partenaires aussi, hein, je pense qu'il y a...
Par les partenaires, et aussi les gens ne nous faisaient pas confiance, parce que quand on a lancé le Kilimandjaro, on a fait une collecte de fonds pour la recherche médicale, et les entreprises ne nous faisaient pas confiance, parce que l'association venait juste d'être faite, et ils ne savaient pas réellement où allaient les fonds réellement. Donc là, on a pu prouver où étaient les fonds cette semaine, justement, et voilà, mais c'est dur de pour la légitimité et la mise en confiance des gens.
Eh bien, écoutez, je vais vous proposer une pause musicale. Tiens, c'est Tina Arena qui, ça tombe bien, va nous chanter Aller plus haut, va nous monter en haut du Kilimandjaro. Ça va me permettre de profiter d'aller à la rencontre de notre invité téléphonique. Alors j'espère qu'il sera en ligne, parce que pour l'instant ce n'est pas encore le cas. On a quoi? On a un peu plus de 3 minutes, hein, pour le joindre, et on se retrouve tout de suite après. Thank you.
faut semblant. J'ai cru que d'autres pas de danse me cacherait aux yeux des gens. Je n'ai jamais suivi vos routes. J'ai voulu tracer mon chemin pour aller plus haut, aller plus haut. L'on oublie ses souvenirs, aller plus haut. Je vivais. Je n'ai pas su te dire je t'aime. Ou seulement te garder. Il faut aussi dire ce doute. Elle le posait dans d'autres mains. Allez plus loin.
Nous sommes toujours sur REC 103.7 et Les Chemins de Traverse, hein, en compagnie de nos invités. Soline Bonhomé, donc, qui est présidente de l'association, hein, c'est bien ça?
Oui, tout à fait.
Présidente de l'association de Killiecher. Et puis Coralie Aigri, qui elle est membre tout simplement de l'association.
Oui, c'est ça.
Alors on a dit que vous êtes connue dans un avion, c'est ça? Dans l'avion qui partait au Kilimanjaro?
Alors, on s'est connus sur les réseaux sociaux avant, hein, forcément, oui, bah. Mais quand même. Mais oui, on s'est vus pour la première fois dans l'avion et on s'est pris tout de suite dans les bras, comme si on se connaissait depuis toujours. C'était vraiment intense.
C'est vrai que ça rapproche forcément quelque part, parce que vous comprenez dans votre expérience. Hein,
exactement.
Voilà, vous vous êtes rencontrés donc en partant au Kilimanjaro. Tiens, ça me permet d'avoir une pensée pour les gens qui sont aujourd'hui bloqués à l'aérodrome du Kilimanjaro actuellement, puisqu'il y a eu cette nuit ou il y a quelques jours des émeutes, et qui fait qu'on a 70 Français qui sont bloqués là-bas actuellement. J'ai appris ça ce matin en écoutant la radio. Vous étiez à cet aérodrome il y a quelques temps.
Oui,
ça s'est passé quand, votre expérience du Kilimanjaro? En juillet 2025. En juillet 2025, donc il n'y a pas très longtemps.
Hein, non.
C'est l'été, vous avez choisi l'été, c'est pas la meilleure saison pour aller en Afrique?
Si, justement, c'est une des meilleures saisons, oui. Alors c'est soit février, soit juillet principalement. Après, on a suivi aussi le planning de Vanessa Marc Morales, qui nous a chapeauté là-bas, hein, qui est une athlète connue dans le milieu. Uh-huh. C'est elle qui nous a emmenés, qui nous a servi de guide avec son mari Florent. Mais voilà, après, il fallait qu'on jonque aussi avec leur planning. Mais juillet, non, c'est une bonne période, on a eu le soleil tout le long.
Ah oui, moi j'y suis allé, oui, à peu près. Moi, j'étais plus bas, moi, j'étais au Kenya, on va dire. Oui. Je voyais le Kilimandjaro de très loin. Et on a eu une température tempérée, on va dire. On avait 23, oui. 24 degrés, quoi.
Oui, c'est ça, tout à fait. Oui. C'est ça. Après, on est vite à moins quelque chose, quand oui, même. Hein. Plus on monte, plus on va à froid. Hein.
C'est vrai qu'on est impressionné, moi, quand je l'ai vu d'en bas. Alors, j'ai pris ma photo en tant que touriste. Hein, j'ai attendu qu'il y ait un troupeau d'éléphants qui passe devant le Kilimandjaro. J'ai pris ma photo. J'étais très heureux. Et je me disais, mince. Il faut monter là-haut, mais moi, je ne me sentais pas de le faire. Je me sentirais pas de le faire, en tout cas. Comment on en vient à avoir cette idée?
Alors, c'est simplement, je suis tombée sur une vidéo de Léna Situation. J'ai l'impression de lui faire de la pub tout le temps. De Léna Situation, où elle a gravi le Kilimandjaro avec son copain. Et je ne pensais pas que c'était possible, en fait. Et moi, il me fallait un challenge fou à ce moment-là. À cette période de ma vie, il me fallait un défi assez exceptionnel, assez fou, pour reprendre confiance en moi. Parce que, mine de rien, quand on a une pathologie, on peut perdre confiance en soi. Et quand je suis tombée sur cette vidéo, j'ai fait un jour, je le ferai. Et petit à petit, il s'avère que j'ai organisé l'ascension. Et à la base, je voulais le faire toute seule. Enfin, sur le moment, c'était ça. C'était l'idée de le faire toute seule. Puis au final, je me suis dit, mais pourquoi pas le faire avec d'autres personnes comme moi? Et comme ça, on le fait pour la recherche médicale. Et en fait, c'est petit à petit, de fil en aiguille, où j'ai constitué mon équipe via les réseaux sociaux. Et on s'est tous rencontrés là-bas.
Je vais vous passer un petit extrait. Tiens, c'est Paul Mirabel avec un de ses sketchs qui parle justement de l'ascension d'une montagne.
Je pense que la montagne n'est pas un endroit pour faire du sport. Ouais, je suis un peu énervé là. Je vous dis ça parce que cet été, on m'a obligé à faire une randonnée. Oui, j'ai marché 7 heures pour aller en haut d'une montagne. J'ai mis plus de temps pour aller en haut de la montagne que pour partir en vacances à la montagne. Je crois que le guide était un peu particulier en plus, qu'on était en bas. Il m'a dit, tu vas voir Paul en haut, c'est super beau. On est arrivé en haut. Il m'a dit, t'as vu en bas, c'est super beau. Je lui ai dit, je sais, on y était tout à l'heure. Pourquoi on n'est pas resté là-bas, du coup?
C'est un peu la question qu'on se pose tous. Hein. Pourquoi est-ce qu'on n'est pas resté en bas? Monter là-haut, oui. Il faut vouloir. Pourquoi faire pour...
Mais c'est un défi, en fait. C'est un défi pour se prouver à soi-même qu'on peut le faire, parce qu'il y a beaucoup de dénivelé, on le sait. Et le fait de ne rien voir, d'avoir un champ vision hyper rétréci, mine de rien, c'est très complexe dans la vie de tous les jours. On se prend très facilement des trottoirs, malgré nos cannes, ou des poubelles, comme je vous ai dit, des obstacles et tout ça. Et là, on sait que c'est caillouteux. Il y a du dénivelé positif, du dénivelé négatif. On sait qu'on va souffrir, en fait, qu'on va mettre notre corps à rude épreuve. Et je pense qu'on avait tous besoin de ça pour se prouver à soi-même. Et en fait, on est fiers de notre corps, parce que notre corps, on a réussi à l'emmener là-bas. Et il s'avère que notre corps, on ne l'aime pas plus que ça, parce qu'il nous donne cette maladie-là. Donc en fait, je pense qu'on avait ce besoin de se dire, ah ouais, il nous prouve que finalement, on peut lui faire confiance, et il nous emmène super loin et super haut.
Je le dis, on essaie d'avoir depuis tout à l'heure notre invité. Hein. Alors je peux le révéler, hein, c'est Philippe Croizon. On essaie de l'avoir. Il a un souci actuellement technique, je suppose, parce qu'on n'arrive pas à se contacter. On l'aura, j'espère, avant la fin de cette émission. Coralie, vous, qu'est-ce qui vous a amené justement à vouloir faire aussi ce défi? Il y a d'abord cette rencontre. Il faut quand même déjà vous connaître, et puis ensuite cette volonté d'aller là-haut, quoi.
Alors moi déjà, j'ai découvert Soline sur Instagram, par son compte Instagram, quand les médecins ont commencé à me parler de la canne. Moi, je ne voulais pas en entendre parler. Je ne voulais pas être déficiente visuelle, tout simplement. Je n'étais pas comme ces gens qui avaient une canne. Et bon, ça s'est un peu imposé à moi. Et j'ai été hospitalisée 2 mois en rééducation basse vision sur Paris pour apprendre à utiliser la canne et à toutes ces adaptations dans la vie du quotidien. Et Soline a parlé du Kilimandjaro la semaine où je suis sortie de cette rééducation basse vision. Et je crois que j'avais besoin de ça, en fait, parce que ça a été un tournant, hein, la canne qui venait dans mon quotidien. J'avais appris à rencontrer des personnes malvoyantes comme moi. Et c'est vrai qu'on crée des liens assez incroyables, même pour les gens extérieurs qui nous disent « Mais vous vous êtes vus qu'une semaine !» Mais c'est comme si on se connaissait depuis toujours, en fait, parce qu'on se comprend si bien. Et c'est vrai que Soline a 10 ans de plus que moi, donc voilà. Je suis obligée de souligner, c'est une réalité.
Elle ne les fait pas vraiment, on va dire.
Non, mais
vous faites chacun la moitié du chemin, prenez 5 chacun. Donc
quand on voit tout ce qu'elle a construit, c'est hyper encourageant.
Exactement, voilà. Oui, de créer une association, tu remontes. On parlait justement d'une rencontre sur Instagram, vous aviez un pseudo, je crois, à l'époque, je ne sais pas s'il existe toujours, j'ai vu que vous appeliez Marguerite ou je ne sais plus.
Marguerite World Tour, oui, c'est voilà. Mon compte Instagram, parce que Marguerite, c'est le nom de ma canne.
D'accord.
En fait, il faut l'assumer, cette canne de locomotion, c'est super dur. Et donc, j'étais, moi, pour le coup, dans un centre de basse vision à Poitiers, et c'est Antoine, mon instructeur en locomotion, quand je l'ai vu, pour la petite anecdote, je lui avais dit, jamais, j'honorerai la canne, je ne veux pas. Il fait, oui, mais tu vas quand même faire des cours de locomotion, et puis tu avideras. Et je te promets que tu ne la quitteras plus. Et au final, le dernier jour, finalement, j'ai eu ma canne, et je ne l'ai jamais lâchée. Et je lui ai donné un nom pour la rendre plus sympathique.
Et je vais poser une question bête, parce que je ne suis pas confronté au problème. Au niveau des chiens d'aveugles, vous avez pensé à un moment, un jour, à un chien d'aveugle ?
Tout à fait. Et en fait, avant d'avoir un chien d'aveugle, il faut savoir utiliser la canne de locomotion. Pourquoi ? Parce que le chien d'aveugle, il va nous suivre dans notre quotidien, mais il a aussi le droit à des vacances. Parce qu'en fait, il travaille, le chien d'aveugle. Uh-huh. Il est tout le temps à l'affût de son petit humain. Et en fait, il a besoin de vacances, il a besoin de se reposer. Et donc, quand il se repose, il faut qu'on puisse se déplacer et ne pas se retrouver tout seul à la maison. Donc, il faut savoir utiliser la canne. Donc, c'est important d'utiliser la canne avant d'avoir un chien d'aveugle. Et pour le moment, je n'ai pas passé ce cap-là parce que je n'en ressens pas le besoin. Après, avoir un chien, c'est aussi s'en occuper et tout au quotidien,
aussi,
tout à fait. C'est un animal aussi avant tout. Et voilà, après, il faut passer un autre cap, mais peut-être plus tard.
Peut-être plus tard. Et vous, Coralie, pareil, peut-être
Moi, j'y ai pensé au chien et j'y pense encore. C'est une grande réflexion actuellement. Mais je pense, peut-être plus tard. Enfin, c'est des étapes, je pense, qu'on traverse. Et le chien vient après la canne parce que c'est encore... On est dépendant. Pour le coup, on ne fait plus attention à rien. Quand on a le chien, il fait attention pour nous tout le temps.
Oui, c'est lui qui prend un peu la responsabilité.
La canne, on a encore le contrôle un petit peu.
Oui. C'est ça, tout à fait. Mm. C'est généralement des golden retrievers, je crois, pour les chiens.
J'ai appris qu'il y avait même des caniches.
Même des caniches.
Oui, tout à fait. J'ai appris ça.
Le chien-chien, sa mémère.
Ouais, non, mais c'est étonnant. Et oui. Il me semble des malinois aussi. D'accord. Mais après, c'est, le chien est vraiment adapté à l'humain en question. Hein. Il y a tout un questionnaire. Il y a une personne qui vient nous rencontrer dans notre quotidien. Après, la personne aussi va aller à l'encontre de l'institut où il y a les chiens d'aveugles. Enfin, il y a toute une démarche et c'est très, très long. Mais malheureusement, il n'y a pas assez de finances aussi pour éduquer ces chiens-là. Et la liste d'attente est très longue pour ceux qui veulent un chien guidant.
Exactement. Il existe d'ailleurs une association, je crois que c'est l'association des chiens guides d'aveugles.
Tout à fait.
Je le dis puisque mon épouse donne depuis des années à l'association tous les ans.
C'est très bien.
Voilà, exactement, c'est ce qu'il faut faire. Vous avez donc créé, vous, votre association, hein, Killy Usher. On peut la trouver d'ailleurs sur Internet, il y a un site Internet.
Tout à fait, il y a un site Internet sur Killy Usher, tout simplement, sur Facebook, sur Instagram, sur LinkedIn.
Exactement. Moi, je vous ai connu grâce à Rando 86, où vous êtes venu vous inscrire il y a quelques temps. Vous faites de la randonnée, tiens.
Oui, tout à fait.
C'est bien
beau
de pouvoir monter en haut de la montagne.
Oui, mais j'aime beaucoup la randonnée, tout à fait.
Beaucoup la randonnée. Parmi les randonnées qui sont possibles, j'en parle toutes les émissions, j'essaie de le caler, donc je vais le faire aujourd'hui encore. Il y a des très belles randonnées en ce que j'appelle le triangle d'or historique du Poitou. C'est Chauvigny, Angle-sur-Anglin, Saint-Savin, un territoire exceptionnel avec Chauvigny, donc la cité médiévale. Vous n'aurez pas le temps de la visiter aujourd'hui, mais c'est vrai que c'est...
Non.
Vous l'avez peut-être déjà visité, non ?
Oui, je connais. Je connais, mais je voulais justement montrer à Coralie, mais il pleut.
Et oui, exactement.
Donc on va changer nos plans.
On a Angle-sur-Anglin, donc avec le roc aux
c'est
sorciers.
Magnifique aussi, oui.
Voilà, avec des sculptures de 15 000 ans, hein, le Lascaux de la sculpture.
Oui.
Et puis l'abbaye de Saint-Savin, si vous voulez vous abriter, c'est les fresques classées au patrimoine mondial. De la ville de Saint-Savin. Donc tout ce triangle d'or historique aujourd'hui porté par le département qui permet justement de très très belles randonnées. Vous randonnez vers où vous
Pareil, un peu dans le coin aussi, sur Saint-Julien-Lard aussi, plus là. Mais sinon, on va souvent prendre la voiture pour le coup avec mon mari et puis on va dans le Massif central ou dans les Pyrénées.
Ah oui, aussi, magnifique.
Voilà. Enfin,
jamais du côté de Toulon.
Eh ben non, pour le coup, mais ça s'est pas fait, mais ça va se faire parce qu'on va devoir faire des randonnées. Vu qu'on a un nouveau défi l'année prochaine, on va devoir s'entraîner. Donc je vais la rejoindre là-bas.
Coralie, Toulon, justement, c'est la rade de Toulon. Pas de possibilité de rencontrer du monde. Là-bas, il y a beaucoup de marins quand même pour voyager.
Il y a beaucoup de marins.
Des voyages au long cours. Une belle expérience, un beau défi.
C'est vrai, c'est vrai.
on le disait, donc vous avez fait un départ sur le Kilimandjaro. La préparation pour partir, parce que c'est vrai qu'on ne se décide pas à partir comme ça. Il faut d'abord des moyens financiers.
Oui.
Je pense qu'il faut réunir pas mal de d'argent. Ça coûte combien à peu près par personne ?
On en a eu pour plus de 7 000 euros.
7 000 euros par personne.
Oui, tout
sachant
à fait.
Que vous étiez alors 10 au départ.
Oui.
À l'origine, donc 70 000 euros de...
Oui,
et puis des partenaires pour ça, pour vous aider.
Alors, on n'a pas tous réussi à trouver des fonds nécessaires pour se payer l'ascension, bien évidemment. Donc, moi, personnellement, je l'ai payé moi-même. Et tous les fonds que j'ai réussi à récolter, je les ai reversés à la recherche médicale.
D'accord. Et vous, Coralie, pour les réunir ?
Moi, j'ai ma famille et mes proches qui m'ont énormément aidée. Et j'en profite pour les remercier, d'ailleurs. Mais voilà.
J'ai mon épouse qui vient de m'envoyer un SMS en parlant des chiens guides d'aveugles et qui me dit que ce sont des labradors. J'étais pas loin, je parlais de Golden Retriever, puisque c'est ma passion, j'aurais aimé avoir un Golden Retriever. Donc, le message est passé, ce sont des labradors surtout qui sont utilisés. Donc, pour, vous êtes parti, donc, on disait au mois de juillet dernier. Les formalités, c'est quoi? C'est un passeport au départ
Oui, un passeport, un visa, et c'est tout, c'est assez simple hein, pour y aller.
Ouais,
Même les vaccins, ne sont pas obligatoires. Donc,
ce sont quand même des pays aussi particuliers au niveau de la santé, peut-être des vaccins oui, obligatoires.
Bah, ce n'est pas obligatoire justement, mais c'était recommandé de faire la fièvre. Fièvre jaune, le paludisme, je crois que ce n'est pas des vaccins, c'est un médicament hein, qu'il fallait prendre aussi. Ouais, voilà, c'est ça. Personnellement, moi, j'ai pris le risque de ne pas me faire vacciner. Ça s'est très bien passé, mais bon, j'ai flippé un petit peu quand même.
Oui, et puis le froid conserve quand on monte à altitude. Quelle altitude le Kilimandjaro?
Alors, 5895, c'est ça? Voilà, c'est ça.
Ce qui est peu, en fait, quand on y pense. Quand on pense au mois de juillet prochain, vous allez monter à beaucoup plus que ça, puisque vous allez au Népal.
Non, au Népal, ça sera moins haut, justement. Parce qu'en fait, on va faire le tour de Manaslu et on va grimper jusqu'au col de l'Arkia, qui est à 5106 mètres.
D'accord, parce que je regardais, Manaslu, c'est 8000 et quelques mètres.
Hein. Oui, mais on ne fait pas le Manaslu, justement, parce que là, c'est de l'alpinisme. Hein. On parle d'autres choses.
Ça m'a inquiété un peu. Je me suis dit, je vais leur dire au revoir dans l'émission, parce que je ne suis pas sûr de les revoir si elles montent là-haut. Donc... Voilà, au départ, donc, vous avez des aides aussi, il faut savoir. Vous êtes parti à 10.
Oui.
Une personne, je crois, a eu un souci. Hein,
Oui, elle n'a pas pu venir. Elle avait eu un problème de passeport. Elle avait déclaré perdu à un moment donné. Puis finalement, elle l'a retrouvé. Et au final, elle ne savait pas qu'il fallait refaire son passeport suite à ça. Donc, elle s'est fait arrêter par la douane.
Ah oui,
donc, du coup, on est parti à 9.
Sur place, vous aviez des aides, pareil. Parce qu'on ne part pas à 9 personnes malentendantes ou malvoyantes.
Oui, l'avantage, c'est qu'on a l'assistance. Comme on est en invalidité, donc on a tous une carte d'invalidité. Et donc, on a le droit à l'assistance. Donc, quand on appelle la compagnie aérienne, eh bien, on contacte l'assistance. Et donc, c'est quelqu'un qui nous emmène pendant toute la traversée de l'aéroport, donc la douane, les bagages, et qui nous emmène jusqu'au terminal, jusque dans l'avion également. Et ensuite, quand on arrive à l'aéroport du Kilimandjaro, eh bien, nous avions des personnes qui sont venues nous chercher à notre siège pour nous ramener sur le tarmac.
C'est ça, le tarmac.
Et pour chercher nos bagages, etc. Donc en fait, on a une assistance, on a des gens qui viennent nous aider et tout ça gratuitement, il faut le savoir. Toutes les personnes en situation de handicap peuvent le faire et faire la demande d'assistance quand on achète nos billets.
D'accord. Combien de personnes autour de vous? Vous étiez 9, donc...
9, donc là, bon, hormis l'assistant, parce que là, c'est quelque chose à part. Donc après, ensuite, nous avons rejoint toute notre équipe locale sur place. Donc tous les Tanzaniens, ils étaient 43.
43, donc
On avait au moins deux personnes, deux guides pour chacun d'entre nous. Et ensuite, on avait tout ce qui était porteur, cuisinier. Et puis, on avait nos deux guides, Vanessa Marc Morales et Florent, son mari, qui nous ont servi de guides. Ce sont des guides français qui viennent de Toulouse, d'ailleurs, et qui nous ont chapeautés là-bas.
Monsieur que j'ai vu tout à l'heure, hein, Sébastien, est venu avec vous?
Non, il est resté garder les enfants.
Ah d'accord, il a quand même osé vous laisser partir seul.
Il a
dû être inquiet, je suppose. Donc, il y avait un moyen de communication pendant ce temps-là?
On avait une balise GPS, donc ils pouvaient nous envoyer des messages. Comme nous, a priori, on aurait pu leur adresser des messages. Mais bon, je pense que sur le moment, on était tellement fatigués ou quoi que ce soit. Mais après, on l'a su un peu plus tard, ça, que c'était possible. Mais en tout cas, eux, ils nous ont adressé des messages et il s'avère que c'était un gros réconfort pour nous d'avoir ce genre de message. Parce que quand on était dans le doute, parce qu'on a douté, on était heureux là-bas sur place, hein, mais sur plusieurs jours, on a douté, on a eu peur, on a eu l'angoisse, on a eu la fatigue, etc. Et quand on avait un message de notre maman ou de notre sœur ou de notre ami ou de notre mari, ça nous a fait un bien fou. Moi, personnellement, je pleure jamais. Là, moi, j'ai pleuré à chacun des messages et même les messages des autres. Hein.
Bah écoutez, je vous propose une deuxième pause musicale. Je ne désespère pas d'avoir Philippe Croison après. On va réessayer. Je vous propose une deuxième pause musicale. On va descendre un peu du Kilimandjaro, se remettre un peu dans la plaine, faire un petit safari avec Jumbo Buana. Je ne sais pas si vous connaissez.
Mais bien sûr.
On y va, on se retrouve tout de suite après.
Jumbo Buana, habari gani, nzuri sana, wageni, mwakaribishwa, Kenya yetu. Hakuna matata. Jambo, jambo bwana, habari gani,
wageni mwakaribishwa Kenya yetu hakuna matata ngiti chambo chambo bwana habari gani nzuri sana wageni mwakaribishwa Kenya yetu hakuna matata Habarigani, nzuri sana, gedeli, wageni, mwakaribishwa, Kenya yetu, hakuna matata, hai, giti jambo, jambo kwana, habarigani, nzuri sana, wageni, mwakaribishwa, Kenya yetu, hakuna matata, hai, giti jambo, jambo kwana, Habari gani nzuri sana wageni wakaribishwa Kenya yetu hakuna matata ngeti jambo jambo bwana habari gani nzuri sana wageni wakaribishwa Kenya yetu hakuna matata maajabu nchi ya kupendeza hakuna matata Kenya yetu hakuna matata hakuna matata hakuna matata hakuna matata hakuna matata Kenya wote hakuna matata hakuna 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 matata kapela hakuna matata
Nous sommes toujours sur ROC 103.7 et les chemins de traverse avec toujours un petit souci pour avoir notre invité téléphonique, mais c'est pas grave, hein. On essaiera de l'avoir encore pendant toute l'émission et puis surtout de l'inviter sinon, puis de vous réinviter avec, hein, si jamais il y a un petit souci. Je m'en excuse d'avance. Voilà, on parlait du Kilimandjaro, de votre départ au Kilimandjaro. On vient d'écouter une chanson, hein, Jumbo Buana. C'est une chanson que vous avez entendue en arrivant là-bas, c'est un peu un hymne, hein.
Tout à fait, tout à fait. Et puis on l'a appris là-bas sur place. Donc ouais, quand on était dans la douleur, dans la souffrance, ils nous chantaient tout ça. Ils étaient super heureux avec nous. Là-bas, en fait, ils ont tous le sourire. C'est merveilleux à quel point ils ont le sourire. Ils n'ont rien pourtant. Financièrement, ils n'ont rien. Ouais. Et on trouvait que c'était les plus heureux du monde. C'était vraiment exceptionnel. Et ils nous ont transmis ça parce que quand on est revenu du Kilimandjaro, on était tous dans cette vibe. Et on ne s'est pas senti à notre place quand on est rentré en France. On en a discuté entre nous. C'est vrai que quand on est rentré en France, on ne s'est pas du tout senti à notre place parce qu'on était encore là-bas avec eux, parce qu'ils sont tellement dans la simplicité, dans la bienveillance, dans l'empathie, c'est incroyable. Exactement. Et donc cette chanson, on l'a apprise avec eux et on la chante tout le temps et même mes enfants la connaissent.
Je crois que c'est un peu la même chose un peu à la maison, puisque quand on est touriste aussi, on l'apprend, ouais. On l'apprend sur place, pendant les mêmes conditions, mais on l'apprend aussi. Moi, ce qui m'a impressionné quand je suis allé au Kenya et en Tanzanie, en fait, on m'a demandé à la sortie qu'est-ce qui t'a plu, est-ce que c'est les zèbres, est-ce que c'est les lions, est-ce que c'est les girafes, est-ce que c'est tout ça. Non, c'était un étourneau en fait qui m'a plu, un étourneau qu'on appelle ça les étourneaux magnifiques. C'est un oiseau comme chez nous, on a les étourneaux qui sont gris. Là-bas, la différence, c'est qu'ils sont de toutes les couleurs, ces étourneaux. Et on se dit, dans des endroits pareils aussi pauvres, même les oiseaux savent remonter le moral. Ils sont là pour ça. C'est vraiment magnifique. Vous regrettez un peu d'être reparti? Non, parce que ça fait du bien de revenir, mais vous aimeriez retourner en Afrique?
Ah, bien sûr. C'est temps pour parler.
Avec
on
monsieur, cette fois-ci,
envie,
peut-être
Non, pas forcément. Non, c'est toujours avec la même idée de l'association, toujours avec l'équipe de l'Akili Family. Ouais. Et c'est temps pour parler. Et oui, parce que quand on a fini Kilimandjaro, pourtant on a râlé là-bas, oui. On n'a plus jamais de randonnée, plus jamais on va monter ça. Et au final, dès qu'on a terminé, c'est quand est-ce qu'on y retourne.
Parce que quand on est au pied, on se dit, oui, bon, ça va, ça paraît pas très haut. Quand on commence à monter, par contre, c'est plus compliqué.
C'est très dur, mais c'est aussi l'altitude. Oui. L'altitude est très compliquée à gérer parce que dès le premier jour, enfin dès la première nuit, il y a eu les nausées, les vomissements, les malaises, les crises d'angoisse pour la plupart d'entre nous. Donc à cause de l'altitude, parce que dès le départ, on a commencé très haut et c'est ça qui a été le plus difficile à gérer.
Exactement. Pour celles et ceux qui veulent écouter le sketch de Paul Mirabel, justement, il en parle des problèmes de respiration. Il dit que son guide lui a dit à un moment, n'oublie pas de respirer. Comme si on pouvait oublier en montant là-haut de respirer.
Tout donc, à fait, oui.
Voilà, il faut vraiment prendre son souffle, prendre de l'air, parce que c'est vrai que ça commence à manquer là-haut. Hein.
Oui, tout à fait, oui. C'est très compliqué. Et c'est pour ça qu'il y a eu 3 personnes, quand même, dont moi, qui n'a pas pu atteindre le sommet. On a dû redescendre parce qu'on était en souffrance. On allait faire on appelle ça, c'est un.
Mal aigu des montagnes.
Oui, voilà, c'est ça, le mal aigu des montagnes, tout simplement. Et puis, quand on commence à le faire, il vaut mieux redescendre directement, parce que sinon, on risque notre vie. Mmh. Donc, malheureusement, moi, j'ai dû descendre à plus de 5000 mètres. Enfin, quand j'ai atteint les 5100 mètres, c'est là où j'ai dû redescendre à mon grand regret. Donc, forcément, j'ai beaucoup pleuré. Mais Coralie a réussi à l'atteindre pour nous tous, avec les autres, bien évidemment.
Parce qu'il ne vous manquait pas grand-chose, 5100, on n'est pas loin du sommet, quand même.
Hein. Oui, mais c'est 6 à 10 heures de marche.
En plus,
et
pour
quand
faire...
on ne respire plus et qu'on n'a pas d'oxygène, c'est un petit peu compliqué.
C'est vrai que ça doit être rageant à ce moment-là de se dire...
C'est même pas la colère, c'est la tristesse parce que en fait, j'ai mis tout ce projet en place et j'étais porteur de ce projet-là et je me devais d'être en haut et de mettre la banderole pour l'association avec nous tous et puis finalement, je n'ai pas pu l'atteindre avec 2 autres personnes. Mais malheureusement, c'est le mal des montagnes et il faut respecter la montagne. La montagne n'a pas voulu de nous trois ce jour-là, mais elle voudra de nous dans 2 ans. Deux ans ou dans 3 ans, on verra.
Depuis ce défi, vous avez perdu des membres, entre guillemets, on va pas laisser là-haut, perdu des membres, c'est-à-dire des gens qui ont renoncé, qui se disent non, c'est bon, je ne retournerai pas au Népal là, dans 2 ans. Ou,
Figurez-vous que tous veulent refaire le Kilimandjaro, même Adrien qui déteste le camping, qui lui a vraiment souffert de la nuit aux tentes. mais voilà, tous veulent refaire. Faire. Et pour le Népal, eh bien, elles ne sont que 2. Mais après, c'est plus après question personnelle. Une personne qui est plus dans l'esprit individuel, qui s'en sort un petit peu mieux en termes d'individuel. Enfin, je ne sais pas comment on peut expliquer ça. Qui est moins dans le collectif et elle va se lancer des challenges plus personnels. Et la deuxième, parce qu'après, elle a des projets personnels aussi. Il y a la vie de travail aussi. Il faut se libérer au niveau du travail et il faut aussi l'argent parce que on ne peut pas forcément tout réunir en termes d'argent pour faire ces merveilleux voyages.
Exactement. En termes d'argent, justement, il faut des partenaires. Vous avez 2-3 partenaires à nous citer, peut-être, pour les remercier?
Oui, bien sûr. Pour le Kilimandjaro, nous avons eu le groupe Omnium, qui est vraiment notre partenaire officiel. Nous avons aussi Machiro, AXA France, donc Bosier. Nous avons D-Lab, il y a eu le Rotary, Lyon Club. Donc voilà, on a eu énormément. Le groupe Omnium, c'est vraiment le partenaire essentiel. Qui nous ont remis un très joli chèque.
Pour vous, Coralie, pour organiser, c'est des moyens financiers personnels pour tout faire ou vous avez été aidée quand même par...
J'ai été aidée, très soutenue par mes proches, la famille, mes amis les plus proches aussi. J'avais mis en ligne une cagnotte personnelle pour les personnes qui voulaient m'aider. Et j'ai eu de très belles surprises. Hein.
Ah bah, je veux bien le croire, parce que c'est vrai que c'est... On le disait, 7000 euros par personne à peu près le voyage.
Oui, tout à fait.
Et pareil pour le Népal d'ici
le Népal, c'est moins cher. On est en moins de 4000 euros.
Ah, vous montez moins haut, peut-être, c'est pour ça?
Non, c'est moins cher, c'est simplement là-bas.
Le climat est différent, il est peut-être plus chaud. Donc, on a moins besoin de vêtements, de moumoutes.
Bah, pas forcément, on a besoin du même matériel pour le coup. Donc déjà, on a tout le matériel du Kilimandjaro pour le Népal. Donc, c'est pour ça que ça nous coûte moins cher. Et c'est pareil quand on va retourner au Kilimandjaro, parce que finalement, le matériel, on en a eu pour plus de 2000 euros hein, de matériel. C'est énorme. Et donc, en fait, on a ça en moins à chaque fois quand on aura d'autres nouveaux défis. Mais par contre, il nous faut des crampons pour le Népal et ça, c'était pas prévu. Donc, c'est signe de neige là-bas. Il va faire froid.
Au niveau de la canne, puisque vous êtes venu avec la canne, vous l'utilisez aussi pour l'escalade ou c'est des...
Non, elle était dans le sac pour la photo. on avait les bâtons de randonnée. Bâtons de randonnée pour nous aider, pour nous appuyer et on avait surtout nos guides qui nous tenaient le bras ou la main.
Ah ouais, parce que c'est vrai que quand on voit les photos du Kilimandjaro, on imagine une butte au milieu d'un terrain, en fait, d'un espace et on a l'impression que c'est plat. il suffit de monter et puis de redescendre. C'est pas ça. C'est,
Non, non, mais je vous mets au défi.
Non, j'étais bien en bas, moi, avec mon troupeau d'éléphants, je vous rassure. Non, mais c'est vrai que oui, c'est donc 6 jours, je crois, pour monter.
Tout à fait, oui, 6 jours. Enfin, non, 5 jours pour monter et une journée pour descendre.
Une journée pour... Ah, ça va plus vite en descendant. Bah écoutez, je vous rejoins en hélicoptère et puis je redescends. Non, mais c'est vrai que c'est une belle expérience, une belle épreuve, un beau défi aussi, on en parle. On va se faire une dernière pause musicale, tiens, et puis on parlera juste après du Népal, et puis on parlera d'un autre projet aussi qui va voir le jour, je crois, d'ici quelques jours.
Il n'ira pas beaucoup plus loin. La nuit viendra bientôt. Il voit là-bas, dans le lointain, les neiges du Kilimandjaro. Elles te feront un blanc manteau où tu pourras dormir. Elles te feront un blanc manteau où tu pourras dormir, dormir, dormir. Dans son délire, il lui revient la fille qu'il aimait. Il s'en allait main dans la main. Il la revoit quand elle riait. Elle te fera un blanc manteau où tu pourras dormir. Elle te fera un blanc manteau où tu pourras dormir, dormir, dormir. Voilà sans doute à quoi il pense. Il va mourir bientôt. Elles n'ont jamais, jamais été si blanches. Les neiges du Kilimandjaro. Elles te feront un blanc manteau où tu pourras dormir. Elles te feront un blanc manteau où tu pourras dormir, 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 dormir bientôt.
Nous sommes toujours sur ROC 103.7 et les chemins de traverse pour la dernière partie de cette édition. On a parlé du Kilimandjaro, on a parlé de l'association, on va parler du futur projet, hein, c'est le tour du Manaslu au
tout
Népal.
À fait, tout à fait.
Pareil, c'est l'idée, c'est quoi là? C'est pourquoi on va faire le tour d'une montagne et non pas de monter en haut?
Simplement parce que au Népal, les montagnes sont très hautes.
On n'a plus 1000 mètres.
Là, on ne joue plus sur le même terrain. Et puis surtout que nous ne faisons pas d'alpinisme. Donc voilà. Donc il fallait qu'on soit raisonnable et que ça reste de la randonnée quand même malgré tout. Et je voulais le Népal, mais ça c'était c'est l'endroit, je veux dire, qui m'attirait depuis très longtemps. Et puis après j'ai fouillé sur internet et tout ça. Et le Tour de Manaslu s'avère que c'est une randonnée qui n'est pas si connue que ça, donc ça reste sauvage. Et on va surtout à la rencontre des gens là-bas sur place, parce que en fait plus on fait le tour de Manaslu, on monte petit à petit, on va visiter des monastères en même temps, on va visiter même une école qui est en haut, pas à 5000 mais à une certaine altitude, et en fait on est vraiment à la rencontre des gens là-bas, et c'est ça que j'ai trouvé sensationnel. exceptionnel. Donc on va marcher 180 km au total pendant 9 jours et puis monter jusqu'au col de l'Arkia.
Bah écoutez, on n'a pas eu Philippe Croizon. Je vais essayer de contacter par rapport, vous me parlez du Népal, vous me parlez des monastères. Oui. Quelqu'un que je connais assez bien et que j'apprécie, c'est Davina. Davina Delors, hein, qui faisait les émissions à l'époque. Alors, vous n'avez pas connu, hein, vous étiez trop jeune, enfin, vous n'étiez même pas né d'ailleurs à l'époque. C'était tout ce qui était gym tonique sur France 2, qui aujourd'hui habite pas très loin d'ici. Hein, elle habite à Ains, à un monastère bouddhiste. Et je pense que vous pourriez échanger à ce moment-là, parce qu'elle aussi adore le Népal, elle y est allée plusieurs fois. Et voilà, elle subventionne une école. Alors, je ne sais pas si c'est celle que vous avez visitée, mais ça peut être un bon moyen de vous mettre en contact. Je lui enverrai un mail dès la fin de cette émission, justement, pour lui dire, avec un lien du podcast, pour lui dire d'écouter un peu l'émission. Là, c'est un projet qui sera pour quand ? C'est l'année prochaine ?
Novembre 2026.
Ah, pourquoi ? C'est la saison du froid ?
Non. En fait, c'était pas possible en termes d'organisation, parce que c'est très compliqué aussi de s'organiser. Il y a certains membres qui travaillent aussi, donc pour poser les congés, tout bêtement. Financièrement aussi, parce que si nous n'arrivons pas à avoir de partenaires, on est obligé de payer nous-mêmes notre voyage, ce qui est normal aussi. Mm-hmm. Donc ça, et on ne peut pas, moi là-bas, je voulais faire en septembre-octobre, sauf que c'est la mousson. Donc il faut attendre la fin de la mousson mi-octobre, après c'est les vacances scolaires, pour ceux qui sont parents, c'est un peu compliqué, d'où le pourquoi on fera ça très certainement les deux premières quinzaines de novembre.
Et là pareil, on a des guides je suppose à ce moment-là pour...
Nous aurons, alors j'ai négocié bien évidemment, nous aurons un Sherpa par personne pour nous aider, puisque le dernier jour, quand nous allons gravir le col de l'Arkia, on le fait de nuit, comme pour le sommet du Kilimandjaro, donc là, comme je vous l'ai dit, on est complètement aveugle, on a besoin d'avoir un soutien, quelqu'un à côté de nous, un bras ou une main. On s'est rendu compte que deux personnes, c'était trop au Kilimandjaro. C'est pour ça que je n'ai demandé qu'un seul Sherpa par personne.
D'accord. Et vous, Coralie, vous serez de l'aventure, je suppose ?
Évidemment.
Évidemment. Donc, il suffit de réunir les fonds. Au niveau du travail, ça se passe comment ? Il y a une acceptabilité de la part de l'employeur ? Vous prenez des congés particuliers ?
Des congés... alors, pour le Kilimandjaro, je venais de changer d'emploi, donc ça a été des congés sans solde. Ouais. Mais après, sinon, oui, c'est des congés...
Oui, voilà, on vous laisse partir facilement, les gens sont compréhensibles. Oui. En même temps, c'est un petit drapeau de l'endroit où vous travaillez, et c'est vrai que ça peut être un bon partenaire. Le département, vous êtes peut-être ? Non, pas encore ?
Monsieur Pichon, pas encore. Non, non, mais bon, va falloir qu'on y pense.
Exactement. quelqu'un très sympathique, on peut toujours lui écrire. Alors, c'est vrai qu'ils ont un petit souci au niveau du département. Il fallait trouver 9 millions d'euros de subventions en moins. Et les associations, malheureusement... Voilà. Donc, il y a peut-être une possibilité quand même. On ne sait jamais d'ici là. Ça se passe donc l'année prochaine, au mois de novembre.
Tout à fait.
D'autres projets. Alors, j'ai vu qu'à partir de... On parle de novembre. J'ai vu qu'à partir du 3 novembre, on avait aussi un autre projet là, qui allait prendre naissance...
Oui, lundi prochain, justement, ce que l'on appelle le Kili Run Project. Donc, c'est quelque chose parce que il s'avère que les défis sportifs, malheureusement, nous faisons beaucoup de déçus parce que nous sommes peu nombreux et nous repartons, en fait, toujours la même Kili Family repart vers de nouvelles aventures. Et en fait, des personnes comme nous veulent le faire aussi, veulent partager le défi avec nous. Et malheureusement, les places sont déjà prises puisque nous ne partons pas trop nombreux parce que question organisation, ce serait très très compliqué. Donc nous faisons beaucoup de déçus. Et il y a beaucoup de personnes valides aussi qui veulent adhérer au projet, enfin faire partie de l'association, mais ils se sentent un petit peu à l'écart. Donc j'ai créé le Kili Run Project qui parle pour tout le monde. Ce sera pour vous tous, pour les coureurs, pour les marcheurs, pour les randonneurs, pour les sportifs du dimanche. Ce sera vraiment pour tout le monde. Et en fait, c'est... Le but, c'est d'adhérer à l'association. Ensuite, d'aller dans un groupe Strava pour enregistrer vos sports, donc la course, la marche ou autre. Et chaque kilomètre rapporte de l'argent. Et cet argent-là, plus l'adhésion, sera pour et la recherche médicale et pour subvenir aux besoins des participants du Tour de Manaslu.
Exactement, puisque c'est vrai qu'on parle de recherche médicale. Il y a quelques jours, le 30, jeudi dernier, un chèque a été remis d'ailleurs à l'Institut de la Vision à Paris par vos soins.
Tout à fait, 26 740 euros nous avons récolté grâce à la Kili Family, grâce à tous nos partenaires, grâce à nos proches qui nous ont suivis. Un grand merci à vous tous d'ailleurs, parce que nous avons récolté 26 740 euros. C'est une somme incroyable pour une première année d'association. Mmh. Effectivement, ça a été très difficile au début, mais là aujourd'hui, j'en suis très fière d'en être arrivée jusque-là. Et donc, nous avons remis ce grand chèque géant justement à l'Institut de la Vision avec la participation de Serge Picot, qui est le directeur de l'Institut de la Vision.
Et ça, c'est donc ce qui restait du défi au niveau du Kilimandjaro. Donc voilà, le prochain, ce sera le Népal.
Oui.
D'ici quelques temps. On se prépare comment pour le Népal? Vous le disiez, il y aura certainement plus de neige. Les neiges éternelles au Kilimandjaro sont un peu de moins en moins fortes, on va dire.
Oui.
Beaucoup plus de neige sur l'Himalaya. Comment on se prépare?
Eh bien, coach sportif à la maison, il vient. Donc c'est Vincent qui vient pour moi, en l'occurrence, deux fois par semaine. Et je fais du sport à côté de ça en autonomie, quatre fois par semaine. Donc en fait, je vais faire du sport entre 5 et 6 fois par semaine. Beaucoup de cardio et beaucoup de muscu, de renforcement musculaire. Et ensuite, très probablement faire un stage en altitude pour adapter, pour moi, je parle, mon corps à l'altitude pour ne pas refaire un mal aigu des montagnes, justement. C'est important de... Parce qu'en fait, on aura beau faire du sport, le mal aigu des montagnes, malheureusement, ça ne se...
Oui, c'est un peu comme ça, le mal du transport ou
ouais, ça vertige, ne se prépare pas, ça vient comme ça malheureusement et voilà, tout le monde peut être touché à ça, donc je n'ai pas envie que ça se reproduise. Donc le stage en altitude justement peut nous permettre d'éviter ce mal aigu des montagnes, mais ça aussi c'est des finances en plus, ça, c'est 1 000-1 500 euros le stage, c'est encore très cher.
Exactement. Et vous Coralie, quand on est à Toulon, pas évident de se préparer à la neige?
Non, c'est vrai. pour le Kilimandjaro, j'habitais encore sur Cannes.
Ouais.
Et j'étais adhérente d'une association qui s'appelle l'ANIS à Nice et qui organisait beaucoup, beaucoup de choses, dont notamment des week-ends raquettes. Donc, c'est ce que j'ai fait avant le Kilimandjaro. Après, c'est vrai que moi, au Kilimandjaro, ce que j'ai découvert vraiment, c'était comment le groupe peut être porteur. Enfin, comment Vanessa et Florent ont été porteurs... pour nous, au-delà des capacités physiques, oui, qui sont nécessaires, mais au-delà de ça, moi, je suis convaincue que c'est grâce au groupe, à Vanessa et Florent, à tous les porteurs, que je suis arrivée en haut.
Exactement, c'est un beau défi hein, à se lancer. C'est un bon conseil à donner aussi à celles et ceux qui sont dans votre situation ou autre, hein, de se lancer des défis, d'adhérer à des associations, venir vous rejoindre, pourquoi pas. Une belle façon de... Parce que c'est vrai que quand on arrive dans la maladie, il y a forcément un moment à surmonter, un moment de déprime. Il faut remonter, il faut rebondir quand on est au fond de la piscine. Et là, c'est un bon moyen justement de connaître un groupe.
Oui, tout à fait. Et c'est ce qui m'a manqué justement à mon diagnostic parce que je cherchais des associations ou des personnes qui sont comme moi dans mon cas et je ne trouvais pas. Puis j'ai réussi à trouver un groupe Facebook par-ci par-là. Mais ce qui me manquait, c'est une association justement qui donne des défis, qui donne la possibilité de faire un défi incroyable qui nous permettra de reprendre confiance en soi et de se prouver à soi-même qu'on peut le faire et qu'on n'est plus, on n'est pas démuni, on n'est pas faible, on n'est pas, enfin, pas plus faible que quelqu'un de valide et bien au contraire on est peut-être plus fort, pourquoi pas, mais j'avais besoin de ça, enfin j'aurais voulu une association comme celle-ci et maintenant que je du coup je l'ai créée et je l'ai créée pour les autres et j'ai beaucoup de retours par rapport à ça qui sont hyper positifs parce que ils nous remercient en disant oui on cherchait une association comme celle-là et ça c'est génial parce qu'on aide les gens à se déculpabiliser, à accepter la maladie, à accepter la canne de locomotion, à accepter l'arrêt de la conduite, à arrêter d'être indépendant. Il faut trouver d'autres moyens, il faut trouver moyens de s'épanouir. Et ça, c'est cool. C'est très, très cool.
Exactement. J'ai essayé une dernière fois d'avoir Philippe Croison, on n'arrive pas à le joindre. C'est pas grave, on essaiera de l'inviter puis de vous réinviter avec lui à ce moment-là.
Oui.
Comme je vous l'ai dit, j'enverrai le podcast aussi à quelqu'un que je connais bien, c'est Davina Delors, hein, pour lui parler de votre expérience et puis de votre défi au niveau du Népal. Je vous remercie en tout cas d'être venues toutes les deux. L'heure se termine. Coralie, merci.
Merci. Merci à vous.
Je vous dis bon retour à Toulon peut-être.
Oui, merci.
Vous partez quand?
Demain.
C'est bientôt, tout à fait. Et vous, Soline, donc retour sur Poitiers?
Oh oui, ça va, je ne suis pas bien loin.
Oui, ouais, le petit bout de chou va pas tarder à arriver avec papa.
Exactement,
je pense.
Tout à fait.
Voilà,
oui. Et bah, je vous remercie de nous avoir reçus.
Eh bah, il n'y a pas de souci. Je vous remercie, moi aussi. Merci, à bientôt. Au
merci.
Revoir.
Au revoir.
Céline a pas la nappe et nanisa. Chef du colline, fini bam bam. Passe le live, content tam tam. Mette la paille à sa fracas. Sa tralala, nappe et nappe la bla. Boudi boudi, les bouts danser. Dans tous côtés, les bouts de
Après les vers au tam tam, des tam tam, bouddhu du bam bam. Après les vers au tam tam, tam tam, copini bam bam. Après les vers au tam tam. Hey, 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 hey,
chemin de traverse, rando, trail, sentier, à vélo ou à pied, laissez-vous guider par Francis sur les chemins de la Vienne. Les chemins de traverse sur REC 103.7, animé par Francis.